70 000 morts par an en moyenne en France, c'est un minimum. Le tabagisme est de loin la première cause de mortalité évitable. La France reste en ce domaine un élève des plus médiocres. Le seul pays de niveau comparable où la consommation de cigarettes et de tabac reste au mieux stagnante, au pire augmente. C'est d'ailleurs parmi les catégories les plus défavorisées que la tendance au tabagisme se développe. D'où l'idée du gouvernement d'augmenter radicalement les prix et de passer le paquet de cigarettes à 10 euros dans les 3 ans qui viennent, soit à peu près 1 euro de plus chaque année. Pour les médecins pneumologues qui l'espéraient depuis longtemps, c'est la bonne décision. Pour les cigarettiers et les buralistes qui s'inquiètent pour leur métier, c'est une très mauvaise idée. C'est le sujet de ce téléphone sonne, pour ou contre. Vos questions, vos témoignages au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux ou par mail franceinter.fr.
Yves Decamps, le téléphone sonne.
Et pour en débattre avec nous dans ce studio, Yves Martinet, pneumologue au CHU de Strasbourg, président du Comité national contre le tabagisme, et Jean-Luc Renaud, secrétaire général de la Confédération des buralistes. Bonsoir messieurs.
Bonsoir. Bonsoir.
Avec au téléphone beaucoup d'auditeurs, c'est un débat qui intéresse apparemment et qui concerne Lionel. Pour commencer, Lionel qui nous appelle de Montreuil. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Merci d'avoir pris mon appel. Donc oui, j'ai 49 ans non-fumeur, donc c'est vrai que je me sens pas particulièrement concerné. Mais je voulais témoigner ce soir parce que je me souviens des résultats d'une étude officielle, je dis bien officielle, que j'avais entendue sur votre antenne il y a quelques mois. Étude réalisée sur plusieurs années de mémoire, je crois 2006-2013, quelque chose comme ça, qui confirmait, comme vous l'avez dit en introduction, qu'en effet, les catégories les plus défavorisées, les plus fragilisées, qui avaient les plus de problèmes sociaux, avaient tendance à fumer de plus en plus, contrairement aux catégories les plus favorisées qui avaient tendance à fumer de moins en moins.
Oui. C'est bien le cas.
Voilà, donc ça je m'en souviens très bien. Et entre autres que les jeunes fumaient moins, enfin bon, ça c'est hors sujet. Et ce que
un
j'avais retenu
moins,
d'intéressant, c'est que le prix du paquet de tabac n'avait aucune influence sur la consommation. Donc je pose la question, si c'est une étude officielle, pourquoi n'est-elle pas justement utilisée pour prendre des mesures? Et en plus, c'est contradictoire d'augmenter le prix si ce sont les catégories les plus défavorisées qui fument le plus.
Alors, voilà. Oui. Alors sur ce point, les études sont effectivement contradictoires. En tout cas, sur l'influence du prix, puisque j'ai vu que dans les pays à revenus élevés, hein, une augmentation de 10% des prix du tabac réduisait la consommation de 4%. Mais il y a des chiffres très différents, Yves Martinet.
Non. Alors, les chiffres en fait sont les mêmes à peu près partout. C'est exactement ce que vous venez de dire. C'est ce qu'on appelle l'élasticité. Si on augmente de 10% les prix du tabac, on a une baisse de 4% de la consommation. Et ça a été observé à l'étranger, mais aussi en France. Plan cancer 1 de Jacques Chirac, 2003-2004, 1,5 million de fumeurs qui ont arrêté de fumer. Alors... Donc c'est efficace dans tous les pays.
Ah, sauf que ça diminue peut-être les ventes, pas forcément la consommation de tabac.
Si, ça diminue, bien entendu. Je vous parle de la consommation de tabac. Je vous parle du nombre de fumeurs. Bien évidemment, c'est démontré, c'est publié. Vous pouvez le voir dans des revues internationales de médecine. C'est quelque chose qui n'est pas mis en cause. C'est une des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé.
C'est mis en cause par les cigarettiers et les buralistes qui vont vous dire ça développe les marchés parallèles.
Tout à fait. Bien sûr, les marchés parallèles. À partir du moment où vous augmentez les prix du tabac en France, après tout, ça peut être une bonne idée si c'est dans le plan, un réel plan de politique de santé publique, on peut le comprendre. Mais à partir du moment où vous trouvez du tabac, voire maintenant deux fois moins cher, à nos frontières, il n'y a pas besoin d'aller bien loin, la France n'est pas une île, on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. À partir du moment où vous pouvez trouver au Luxembourg, en Belgique, en Andorre, bien entendu, et en Espagne, pour les plus connus, du tabac, voire deux fois moins cher, vous doutez bien que nos concitoyens ne sont pas, bien sûr, idiots. Ils connaissent toutes ces techniques qui, malheureusement, aussi bien par Internet que par des moyens tout à fait légaux, on peut trouver du tabac ailleurs et nettement moins cher. Donc, on peut pas lutter avec un prix
C'est ce que nous dit François, d'ailleurs, qui nous écrit sans doute du Sud, puisqu'il dit « Moi, je fume du tabac à rouler. Passer le paquet à 10 euros, c'est la mort des buralistes. Mais pour le marché noir, ce sera la porte ouverte, puisque moi qui habite dans le sud, donc ça vaudra le coup d'aller en Espagne chercher des paquets. »
Et voilà. Alors, c'est en partie exact. Ce qu'il faut dire, c'est que parmi les ventes qui sont en dehors du réseau des buralistes, il y a à peu près 20% du tabac qui est vendu en dehors du réseau des buralistes en France. Il y en a 15% qui correspond aux ventes transfrontalières. Et c'est vrai que la différence de prix entre un côté et l'autre côté de la frontière a un caractère attractif. En ce qui concerne la contrebande et la contrefaçon, le prix joue assez peu finalement, puisqu'il s'agit en fait de mécanismes différents. Mais toutes les études montrent, d'abord, New York n'est pas une île. Il y a eu des augmentations de prix majeures à New York, alors qu'il y a des réserves indiennes autour de New York où les prix sont très faibles, et il y a eu des baisses de consommation. Donc il n'y a pas question d'deal ou pas d'deal, ça ne joue pas. Il y a certainement une partie des achats qui seront transfrontaliers, qui peuvent augmenter, mais même, et c'est toutes les études le montrent, même si ces achats transfrontaliers augmentent, il y a une baisse de la consommation. Et je dis bien une baisse de la consommation.
Autre intervention, Isabelle, qui nous appelle de Terrasson, la Ville-Dieu, c'est en Dordogne, Isabelle.
Oui, bonjour. Bonsoir plutôt.
Bonsoir.
Voilà. Donc, en fait, j'avais deux questions, à vrai dire, à vous poser. Une qui concerne les mentions qu'il y avait auparavant sur mon ex-nouveau paquet de tabac. C'est-à-dire quand il y avait toujours le pourcentage de tabac, le pourcentage d'agents de texture, le pourcentage d'agents de saveur, par exemple. Et ça, ça n'apparaît plus du tout sur les nouveaux paquets. Alors déjà, ça m'interroge parce qu'en fait, moi, je veillais toujours à prendre du 100% tabac et que je n'en ai plus aucune garantie maintenant. Et que ça me dérange. D'autre part, je suis une vieille fumeuse, ça fait plus de 40 ans que je fume, avec modération, avec des périodes d'arrêt quand la vie est belle, avec des périodes parfois difficiles, des épreuves qui me font un peu reprendre le tabac. Je reste modérée, je suis en très bonne santé, et j'ai des petits revenus, et ça me fait vraiment suer de voir ce prix s'envoler, alors que j'ai envie de dire, mais foutez-moi la paix, quoi, c'est pas si grave que ça, je prends bien soin de moi pour le reste, mais laissez-moi ce petit plaisir à un prix. Moi, j'ai commencé, ça coûtait 3 francs 6 sous, quoi. Et ce contraste, il devient vraiment désagréable pour des gens qui, je crois, bon, ça va, ça fait combien de décennies qu'on nous dit que c'est mauvais pour la santé, on le sait. Donc, si on le fait avec modération et avec un petit peu quand même d'écoute de son corps, mais en se disant, voilà, j'ai un vice, je peux pas être parfaite, laissez-le moi, j'en ai pas beaucoup d'autres. Vous voyez ce que
alors,
je veux dire ?
Bien sûr, Isabelle. Alors ça, c'est un discours qu'on entend assez souvent, Yves Martinet. Hein, je rappelle que vous êtes le président du Comité national contre le tabagisme. Ce discours moralisateur que certains dénoncent, hein, laissez les gens vivre en paix.
Oui, non, mais alors la vente de tabac est partiellement libre en France, puisqu'elle est interdite aux mineurs, ce qui n'est pas toujours respecté, loin de là. La question que pose l'auditrice, c'est la question d'une consommation petite consommation, je fume 3-4 clopes par jour, c'est pas dangereux. Alors malheureusement, toutes les études montrent que fumer 3-4 cigarettes par jour, c'est presque aussi dangereux que de fumer 15 cigarettes par jour. Parce que pour le cancer, ce qui tue, c'est pas le nombre de cigarettes qu'on fume par jour, c'est le nombre d'années. Alors j'aimerais rappeler de quoi on parle aujourd'hui. On parle du tabac. C'est une drogue dure, c'est plus dur d'arrêter le tabac que d'arrêter l'héroïne, c'est beaucoup plus dur. C'est une drogue qui tue, vous l'avez dit en introduction, et c'est une maladie infantile. En France, on commence à fumer à 13-14 ans. C'est à cet âge-là la consommation des premières cigarettes, et malheureusement, ces cigarettes sont vendues par des buralistes, alors qu'il est interdit de vendre du tabac aux mineurs.
Jean-Luc Renaud.
Oui, alors bon, là, le professeur Martinet prend des raccourcis un peu rapides. Il est bien certain qu'on n'est peut-être pas parfait, mais il y a eu des progrès énormes de fait de par ma profession concernant la vente aux mineurs. Et ce que je peux vous garantir aujourd'hui, c'est que les ventes de cigarettes ou tabac hein, aux mineurs, aux jeunes, notamment les plus jeunes, qui ont 13 ou 14 ans, ça, effectivement, je vous rejoins, je sais que ça existe, ça ne se passe pas dans notre réseau, ça se passe aux portes des lycées, et avec du tabac qui a été acheté de manière tout à fait illégale, ou alors aux ventes, avec des ventes transfrontalières, hein, bien sûr, qui elles sont légales, mais qui, la destination finale de ces ventes transfrontalières, légales à la base, deviennent illégales, puisqu'en fait, c'est détourné, c'est pas pour la consommation personnelle. Quand vous avez quelqu'un qui va chercher 15, 20, 25 cartouches de cigarettes, qui explique c'est pour sa consommation personnelle, mais qui en fait, après, avec des compagnies complices les revendent à des gamins à 12 ans devant les lycées, là, ça ne peut pas coller.
Monsieur Renaud, il faut raison garder.
Oui, mais il faut aller dans la vraie vie, monsieur Martinez.
Je peux parler ? La vraie vie, je la connais. C'est moi qui les malades et les morts. Je vous rappelle qu'un buraliste, c'est 3 morts par an. Donc, voilà. Moi, j'ai les morts, c'est la vraie vie, c'est la mort. Ceci étant dit, vos membres, les membres, pas tous, mais la très grande majorité, vendent du tabac aux mineurs.
Mais je ne peux pas vous laisser dire ça.
Laissez-moi terminer, monsieur.
Il est parfois difficile de s'y opposer.
Si vous voulez faire sauter le standard, que tous les Français qui voient la vente de tabac à des mineurs appellent. Parce que franchement, je trouve ça scandaleux. C'est une drogue dure. Vous avez l'obligation, vos buralistes, je ne dis pas vous, je ne sais pas, je ne vous connais pas.
Les buralistes doivent demander la carte d'identité.
Ils doivent, par la loi, depuis un an, avoir une preuve de l'âge des acheteurs. Moi, j'achète pas du tabac, j'achète des petites choses, j'achète des journaux, et j'ai toujours plaisir à acheter mes journaux. Mais je n'ai jamais vu un buraliste demander une preuve d'âge à un mineur, à quelqu'un dont l'âge est évident. Et vous savez très bien qu'il y a eu des buralistes assez importants de votre confédération qui ont été condamnés pour vente à des mineurs de 12 ans.
Il y a très longtemps de ça.
Non, il n'y a pas très longtemps.
Guillaume Parmel nous écrit qu'avec le coût exorbitant des soins aux cancéreux du poumon, comment peut-on encore subventionner les buralistes, dit-il, leur métier appartient au passé. Jean-Luc Renaud.
Alors, d'abord, la subvention, c'est une. On a eu sous forme d'aide, puisque je rappelle quand même que ce tabac dont on parle, ce produit tant décrié, le professeur Martinez l'a même rappelé tout à l'heure, il y a marqué dessus que ça tue, mais c'est quand même malgré tout un produit légal qui est vendu dans un réseau officiel, bien encadré par la réglementation, puisque notre administration de tutelle, c'est la douane, et ce réseau officiel, c'est le réseau des buralistes. Ce réseau des buralistes, il a la charge et la mission de vendre effectivement à nos clients majeur, ce produit qui appartient, je le rappelle, à l'État.
Bernard nous appelle. Oui, allez, attendez, on va écouter l'auditeur Bernard qui nous appelle de Lille. Bonsoir Bernard.
Oui, bonsoir. Je viens d'entendre les propos des buralistes. Il y a combien de caméras cachées qu'on a vues en télévision qui nous montraient que des mineurs pouvaient acheter des cigarettes librement et sans problème. Avant de poser mes questions, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Dans les journaux de France Inter, aujourd'hui, on a entendu beaucoup parler de la baisse du tarif du gaz.
Oui.
De 0 et quelques %. Et ce qui serait bien, c'est qu'on arrête de nous prendre pour des gogos, parce que les baisses de 0,8%, les baisses de gaz, c'est pas l'été qu'il faut les faire, c'est l'hiver.
Bon, mais ça, c'est pas tout à fait le sujet.
C'est une parenthèse, parce que dans tous les journaux, on l'a entendu aujourd'hui.
D'accord.
Non, ma question est directement liée à votre sujet de ce soir. J'aimerais savoir combien coûte à la Sécurité sociale le tabagisme actif et le tabagisme passif. Et quand les cigarettiers seront soumis à une imposition qui permettra de supporter ces coûts. Et pour finir, si on compte sur nos politiques pour faire quelque chose, je me souviens d'une émission d'Élise Lucet où on voyait M. Santini attabler avec les lobbies du tabac un cigare à la bouche et qui l'a rembarré, qui refusait de répondre à ses questions.
Bien, Yves oui, Martinet.
On pourra parler de ce rendez-vous chez Françoise puisque le CNCT était partie prenante. Ceci étant dit, réponse aux deux questions précédentes. Oui, l'État soutient les buralistes. Alors, il faut lire, aller sur Internet, regarder la Cour des comptes, le rapport qui a été publié en février 2017. En gros, c'est de l'ordre de 250 à 300 millions de soutien par an aux buralistes de la part de l'État pour vendre une drogue dure qui tue et qui coûte très cher.
Alors, on les soutient justement en compensation du fait que les cigarettes sont de moins en moins vendues, parce qu'on a fait le paquet neutre, parce que maintenant on augmente les prix. C'est 26 000 professionnels quand même, les buralistes.
25 000.
Oui, mais ça dépend. Il faut savoir ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut que les buralistes vendent plus de tabac ou moins de tabac? Je rappelle, puisqu'on arrive au coût du tabac, 14 milliards de taxes, c'est-à-dire les assises plus la TVA.
C'est ce que ça rapporte à l'État. Voilà.
Ça ne rapporte pas, c'est un transfert d'argent. Le coût pour la santé, c'est environ 30 milliards par an, c'est le double. Et le coût pour la société, vous, moi, tous, c'est plus de 2500 par habitant et par an, c'est évalué à 120 milliards d'euros. Alors vous me direz, c'est peut-être pas 120, c'est 80. Toujours est-il que les Anglais, qui sont des gens intelligents et pragmatiques, ont compris que ça plombait les comptes publics et les comptes de la nation anglaise, et donc ils ont entrepris les grandes manœuvres pour lutter contre le tabagisme. Et c'est ça qu'on doit faire. Parce que ça coûte à la société, en plus du coût sanitaire et social.
Jean-Luc Renaud.
Mais ils ont tellement tout compris, les Anglais, qu'ils ont retardé, voire annulé l'arrivée du paquet neutre. Ils étaient très intéressés, c'est-à-dire on nous l'a vendu comme ça à nous, et ils s'en sont totalement éloignés. Ce qui fait que maintenant, on n'est plus que les seuls à l'avoir. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, c'est bien beau de parler des chiffres, mais à partir du moment où vous aurez... Alors, on peut enlever effectivement les aides, le soutien, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Les soutiens financiers à ce réseau de buralistes, qui est le réseau de professionnels qui vend le tabac. Mais à partir du moment où vous trouverez tout le tabac que vous voudrez, deux fois moins cher à vos portes ou sur Internet, vous pouvez faire tout ce que vous voulez en termes de politique de santé publique, ça ne marchera pas. On a un exemple très clair, le paquet neutre, l'arrivée du paquet neutre. On nous l'a vendu comme quelque chose qui était absolument faramineux et qui allait tout révolutionner. Et on allait être les leaders, au moins pour une fois c'était intéressant, on allait être les leaders en France sur une mesure importante puisqu'on allait avoir le paquet neutre et que les autres allaient s'engouffrer derrière, les autres pays européens, pour nous suivre. On a le paquet neutre, on s'aperçoit que...
Personne n'a suivi.
Effectivement, personne n'a suivi, bien entendu, ça c'est la première des choses. Mais surtout, avec 6 mois, on va dire, allez, en gros, avec 6 gros mois de recul, parce qu'en théorie, on ne trouve plus que ça sur le marché, les ventes sont stables, ce qui veut dire que il y a toujours, les fumeurs sont toujours là, ils sont là.
C'est un petit peu comme l'inscription fumée-tu autrefois, ça n'a pas changé.
Exactement.
Grand chose, mais
on s'y habitue. Et puis les clients nous le disent, nos clients nous le disent, écoute, de toute façon, moi, je continuerai de fumer. Donc, si on veut vraiment faire quelque chose, faisons de la prévention. Il y a d'autres moyens. Parce que le paquet neutre ne suffira pas. Et de passer un paquet à 10 euros, même sur 3 ans, posera d'autres problèmes. D'accord, les buralistes vont disparaître, mais vous aurez toujours autant de fumeurs. Et il serait illusoire, utopique et dangereux de croire qu'avec ces mesures-là, là, il n'y aura plus un seul fumeur en France.
Alors, sur cette proposition de développer la prévention, c'est aussi ce que propose Daniel, je crois. Bonsoir, Daniel.
Oui, bonsoir.
Vous nous appelez de où, Miribel?
Miribel, c'est près de Grenoble, c'est la métropole de Grenoble. C'est la campagne. Moi, je vais soulever le problème comme ça. Je vais faire comme votre président auditeur. Je vais commencer par une autre affirmation.
Vous n'allez pas me parler du prix du gaz, non?
Non, je vais vous parler des EHPAD, monsieur. Vous voyez, hein, je ne sais pas si vous avez noté ce midi à votre journal de 13h, on nous a dit que monsieur, notre gouvernement, monsieur Macron, une très bonne idée. Oui. Donc on va enlever un petit peu d'argent au niveau des budgets pour les EHPAD. Hein, et qui c'est qui trinque en tête? Ce sont les personnels et les personnes âgées.
Bon, mais ce n'est pas une émission de débrief pour les journaux de la journée. Là. On fera une émission sur les maisons de retraite.
On revient au monsieur qui s'occupe des buralistes. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il propose en prévention pour que les gens qui travaillent dans ces EHPAD fument tant, hein, et évitent de fumer tant, hein, qu'est-ce qu'ils proposent comme solution?
Et vous, qu'est-ce que vous proposez?
Ah ben moi, de toute façon, il y a énormément à faire au niveau de l'État, des meilleures conditions de travail, entre autres. Hein, c'est simple. Là, on va diminuer les budgets, hein, et il va falloir supprimer du personnel. Hein, ça donne moins d'argent aux établissements pour fonctionner, aux collectivités, pour les faire fonctionner, et eh bien qu'est-ce qu'on fait? On diminue les directeurs, ils nous le disent directement, et ça a été cité ce midi.
Jean-Luc Renaud va vous répondre.
Mais merci. Bonjour monsieur. Ben écoutez, en termes de prévention, franchement, il y a des tas de choses à faire. Vous l'avez dit, on pourrait déjà commencer par s'y prendre beaucoup plus tôt au niveau des jeunes. Il faut commencer beaucoup plus tôt que cela. Même le lycée, j'ai envie de vous dire, c'est déjà tard. Le professeur Martin a parlé de 13 ans tout à l'heure, et là-dessus, je le rejoins. Je sais que ça existe. À partir du moment où vous allez au collège et que dans d'autres pays ça se fait, alors on va prendre l'exemple de l'Allemagne où des professionnels, des gens qui connaissent le sujet du tabac, vont expliquer aux plus jeunes, mais vraiment aux plus jeunes, dès le plus jeune âge, leur dire qu'il ne faut éviter de rentrer dans ce monde, il faut éviter de se mettre à fumer.
Et ça se fait, ça, les opérations de sensibilisation.
Oui, mais pas assez. Le problème, il est là, c'est que pas assez. Je peux vous assurer, faites le tour des lycées, des collèges, demandez-leur, et ils vont vous dire oui, c'est arrivé une fois. Là, il faut le faire de manière régulière et il faut y aller beaucoup plus fortement.
Rien que les images sur les paquets, justement, c'était
après,
le but.
Tout à fait, c'est le but. On voit bien que tout le monde s'en moque. Une deuxième truc qui venait du ministère de la Santé et que nous n'avons pas trouvé ça très bête, c'était quelque chose de plutôt intelligent. Il y a eu l'année dernière, je crois que c'était au mois de novembre, si mes souvenirs sont bons, le mois sans tabac, lancé par l'ancien ministre de la Santé, avec qui nous n'avons pas toujours été d'accord.
Il y a la journée mondiale sans tabac aussi.
La journée, mais un mois, c'est plus long quand même. Eh bien, on avait proposé à la ministre, mais si vous voulez, ces kits, on pourrait les distribuer, puisque nous, nous sommes au contact du fumeur tous les jours. Tous les jours, on les voit. Hein, nos clients qui fument, ils viennent chez nous.
Et puis on pourrait développer le vapotage, Yves Martinet.
Tout à fait. Non,
mais les Anglais l'ont fait.
Je vais d'abord reprendre un petit peu. Je suis un peu surpris. C'est une litote. Understatement, puisqu'on va parler des Anglais. Sur Renault, qui vend du tabac, dont l'intérêt est de vendre un maximum de tabac pour faire un maximum de profit,
pas forcément.
On lui demande, Monsieur Renault, restons calmes, qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir la consommation et donc la vente de tabac. On marche sur la tête. Vous demandez à un marchand de tabac ce qu'il faut faire pour ne pas vendre de tabac. On est dans un pays où quand on parle de tabac, on admet n'importe quoi. Monsieur Mondredon, votre président bien-aimé, Monsieur Mondredon,
président de la Confédération des buralistes,
patron de la Confédération des buralistes, dès qu'il y a eu une nouvelle ministre de la Santé, il écrit pour prendre rendez-vous avec la ministre de la Santé. Qu'est-ce que le représentant de commerçants qui vendent une drogue qui tue à des enfants a à dire sur la prévention et sur la santé des Français? On marche sur la tête.
Il défend son métier, sa profession.
Mais qui défend son tiroir caisse, c'est tout son honneur.
Non, mais ça, c'est
tiroir caisse.
Ce sont les arguments.
C'est bien. Écoutez, monsieur, moi j'ai les morts, vous avez 3 morts par buraliste.
Mais ça, c'est ce que vous dites.
Non, mais monsieur,
c'est ce que vous dites.
Je sais compter 75 000, 25 000 buralistes.
Mais votre politique, de santé publique ne marche pas, puisque d'une année sur l'autre, il y a sans arrêt une augmentation du nombre de morts. Il y a manifestement quelque chose qui ne colle pas.
Non, mais revenons sur les solutions, peut-être.
Alors,
on parlait des Anglais.
Oui, mais
qui eux ont développé l'e-cigarette, le vapotage.
Non, non. Les Anglais, ils ont fait deux choses qui sont importantes. Ils ont décidé. On fait en sorte que les jeunes n'entrent pas en tabagisme, on interdit la vente aux mineurs et on la met en œuvre, ce qui n'est pas fait en France. On a la loi, on n'a pas la mise en œuvre. Et on aide les fumeurs à arrêter de fumer. Là, on n'est pas assez bon en France. On n'est pas assez bon parce qu'on n'a pas un réseau de médecins, d'infirmières, de professionnels de santé pour aider les fumeurs à arrêter. Je dis simplement que quand on est pris en charge par un professionnel,
c'est
le médecin traitant.
C'est remboursé.
Partiellement, on va voir. Eh bien, quand on est pris en charge, on multiplie par 4 ses chances d'arrêt. Alors, c'est remboursé, ça c'est intéressant. Parce que tout à l'heure, on a commencé en disant, malheureusement, les classes socio-économiques défavorisées fument beaucoup. Et quand on va augmenter les prix, c'est sûr que ça va leur taper plus dans le porte-monnaie. C'est pour ça que ces augmentations, elles doivent être accompagnées de mois sans tabac. Vous l'avez dit, et ça c'est important, c'est-à-dire d'un matraquage pour arrêter de fumer et d'un remboursement complet de la prise en charge. Quand je dis de la prise en charge, c'est à la fois voir le médecin, voir l'infirmière et les traitements. Et là, il faut qu'on arrête de tourner autour du pot. Il faut aborder les problèmes par les deux extrémités, aider les fumeurs à arrêter de fumer et faire en sorte que les jeunes n'entrent pas en tabagisme.
Question très simple de Manuel qui nous écrit par mail, c'est pour vous Jean-Luc Renaud. Pourquoi les buralistes ne se reconvertissent n'existe-t-il pas dans une activité plus saine, par exemple la cigarette électronique ?
Alors tout à fait, c'est bien qu'il le souligne, notre auditeur. Dites-vous bien que nous avons commencé, et depuis longtemps, il y a déjà très longtemps que le buraliste fait de la diversification avec ses moyens, à sa mesure, en fonction de sa localisation, s'il est en milieu rural, en milieu périurbain, il y a des tas de choses que l'on fait déjà chez nous. Alors, la diversification de la cigarette électronique, on y est, bien entendu, et on y est allé un petit peu tout seul, puisque justement, nous avions demandé à l'époque, où c'était encore les balbutiements de la cigarette électronique en France, je vous parle de ça d'il y a vraiment quelques années, où Pascal Monredon et moi-même avions demandé à Madame la Ministre de la Santé, Marisol Touraine, de nous accompagner et de nous laisser ce nouvel outil qui est arrivé sur le marché, en disant, ben voilà, c'est quelque chose qui n'a pas été, en plus, des démentis par d'autres professeurs de la santé, et qui ont dit, ça peut-être être un moyen palliatif, quelque chose qui fait que l'on s'éloigne du tabac. On a demandé, laissez-nous-en la charge, donnez-nous cette fonction, nous sommes des préposés de l'administration, et on doit pouvoir le vendre dans notre réseau. On n'a pas été suivi, donc on le fait, bien entendu, puisque c'est un produit qui est en vente libre, il ne faut pas le vendre. Il est sous réglementation, on doit le vendre, bien sûr, à des majeurs. Je ne sais pas si c'est toujours respecté, parce qu'on le trouve absolument partout, mais toujours est-il qu'on en avait fait la demande.
Yves Martinet, oui. sur ça, sur la cigarette électronique. La toxicité est un peu controversée, malgré
non,
tout.
Non, alors on ne sait pas.
On
n'a pas assez d'études. On n'a pas assez de recul. Et quant à l'efficacité pour arrêter de fumer, c'est pas du tout démontré. Donc il faut être prudent. En France, en fait, il y a 2,5% de Français qui vapotent tous les jours. Et le gros problème, c'est que dans ces 2,5%, vous en avez 60% qui à la fois vapotent et fument. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Petite consommation de tabac, grand risque. Donc, si un fumeur arrête de fumer en vapotant, c'est mieux.
C'est mieux que rien.
Mais malheureusement, la grande majorité fume encore en vapotant.
France Inter, le téléphone sonne. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le mot-clé Telson.
En ligne avec nous un buraliste de Rezé, en banlieue de Nantes. Philippe, bonsoir Philippe.
Bonsoir.
Nous vous écoutons.
J'ai été frappé la semaine dernière par le nombre de médias qui ont relaté l'action qui a été faite sur les radars. Mes clients qui passent dans le magasin tous les jours, qu'ils soient fumeurs, non-fumeurs ou même des anciens fumeurs, me disent que c'est une très bonne action. Ils nous soutiennent tous et ma question est simple, quelle est la suite prévue des événements ?
Voilà, vous faites allusion aux buralistes qui ont été bâchés des radars au bord des routes pour protester contre le projet de la cigarette à 10 euros, enfin du paquet à 10 euros. Jean-Luc Renaud, la suite ?
Mais la suite, alors pour répondre à mon collègue, la suite c'est que pour l'instant, voilà, c'est l'été, donc il y aura peut-être des actions. Nous avons bien entendu demandé des rendez-vous avec Matignon, notre Premier ministre, et Emmanuel Macron, notre président de la République. Nous pensons les rencontrer avant le mois de septembre, et en fonction de ce que l'on obtiendra comme assurance, il se peut effectivement qu'il y ait d'autres actions, car j'y reviens, c'est très important, ces actions sont là pour montrer que nous, le paquet à 10 euros, dans les conditions actuelles, nous n'en voulons pas. Pourquoi ? Parce qu'elles sont inacceptables. Il n'est, je l'ai déjà dit tout à l'heure, hors de question de pouvoir avoir un paquet à 10 euros chez nous, alors que partout ailleurs, vous le trouverez à 4 euros, 4,50 €. Et c'est là, c'est l'hérésie, la bêtise, donc, elle est ici.
Donc pour bien comprendre, vous n'êtes pas dans l'absolu contre la lutte anti-tabac, évidemment, mais vous voudriez que tout ça soit assez cohérent, qu'il y ait une harmonisation, par exemple, européenne.
Je reprendrai simplement ce qu'avait dit le candidat Macron. Le candidat Macron a parlé pendant sa campagne du paquet à 10 euros, mais la phrase ne s'est pas arrêtée là. La phrase était à partir du moment où, bien entendu, en Europe, voilà, ça serait bien que toute l'Europe continue et se rapproche le plus possible de ce paquet à 10 euros. À partir du moment où il y aura le paquet à 10 euros partout, autour de nous, nous n'aurons plus aucune raison de nous disputer là-dessus.
Un mot, Yves Martinet ?
Oui, quand les poules auront des dents, on sera d'accord. Ceci étant dit, par rapport au fait que les autres pays européens, vous savez très bien qu'il n'y aura jamais, ça c'est vraiment, c'est un mantra que vous répétez qui n'a aucune valeur.
Mais le candidat Macron l'a dit.
Mais M. Macron peut dire aussi des choses qui ne sont pas exactes. Ceci étant dit, par rapport au radar, je me permets de vous dire simplement...
Vous voulez dire à l'action des buralistes.
Oui. Mettre des sacs poubelles autour des radars. Je rappelle simplement qu'actuellement, la mortalité sur les routes augmente. est-ce que c'est vraiment quelque chose de raisonnable et de raisonné
de Ah, vous n'allez pas les accuser de tuer en plus sur les routes.
De mettre des sacs poubelles sur des radars qui ont pour objet de contrôler la vitesse. Est-ce que je peux dire un mot sur le paquet neutre?
Rapidement.
En gros, ça va aller très vite. Aujourd'hui, Aéroport de Paris a publié une information qui dit que depuis qu'il y a le paquet neutre, les ventes en duty-free ont baissé de 15%. Les paquets neutres ne sont pas attrayants, c'est démontré.
Autre témoignage, alors savoir si c'est lié au paquet neutre.
Ah si, si, c'est depuis les paquets neutres, c'est ce que a dit Monsieur Romanet, vous avez l'information.
Autre témoignage, celui de Vincent, qui nous appelle de Rion. Bonsoir Vincent.
Bonsoir.
Nous vous écoutons.
Merci pour mon appel déjà. Écoutez, c'est pas tout à fait dans le sujet, mais je veux dire, moi je travaille actuellement comme designer avec les salariés de l'usine de cigarettes de Rion, qui appartient à Seita et qui appartient donc à Imperial Tobacco. Cette usine va délocaliser en Pologne son activité à la fin de l'année. C'est donc 239 salariés qui vont perdre leur emploi, hein, basiquement. Mmh. Et dans ce contexte un peu difficile, ils ont décidé, ces salariés, de monter une scope et de travailler surtout à savoir qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que le tabac. Ils sont parfaitement conscients que la cigarette, le tabac à fumer est nocif et pas bon, qu'il faut arrêter avec avec ce produit. Et on s'est posé la question de savoir, les planteurs de tabac aussi, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre dans ce cas-là? On a encore 7000 hectares de tabac qui sont plantés en France, et on veut essayer de trouver des débouchés nouveaux pour cette plante. La plante de tabac, c'est aussi des fibres, c'est aussi des enzymes, c'est aussi pas mal de choses qui pourraient convenir à d'autres productions. Donc on a pensé à faire des biomatériaux, on a pensé à faire des biocarburants, on a pensé à faire du textile. On essaie de trouver en tout cas des débouchés nouveaux pour le tabac et progressivement, j'irai en finir avec la cigarette. C'est aussi, c'est un peu notre but actuellement. Ça fait 3 mois qu'on est là-dessus maintenant. Mmh. Et je voudrais savoir ce qu'en pensent vos invités par rapport à ces questions, de savoir, certes, effectivement, il faut en finir avec la cigarette, mais le tabac, les planteurs de tabac, qu'est-ce qu'on fait avec eux?
Ben voilà qui va dans le bon sens, en tout cas Yves Martinet.
Oui, l'idée, c'est la même idée pour les buralistes en fait, c'est de faire évoluer tout un système commercial avec des planteurs, avec une plante qu'on pourrait peut-être utiliser dans d'autres circonstances. Moi, je suis pas compétent dans ce domaine. Et de la même façon, on suggère que les buralistes voient évoluer leur commerce pour que... Et c'est d'ailleurs le cas maintenant. En général, c'est moins de la moitié du chiffre d'affaires des buralistes, le tabac. Donc, alors qu'il y a quelques années, c'était beaucoup plus important. Donc, l'idée, c'est qu'il reste un système avec des buralistes de vente de tabac qui est contrôlé, ça, on est d'accord. Mais avec peut-être un découplage, notre objectif c'est un découplage entre la quantité vendue et le bénéfice que fait le buraliste. Je m'explique, plus un buraliste actuellement vend de tabac, plus il gagne bien sa vie. Et on peut comprendre, c'est humain qui veulent bien gagner sa vie. Donc ce qu'il faut, c'est découpler complètement cette relation entre plus je vends de tabac et plus je gagne.
Jean-Luc Renaud, faire évoluer le métier, pourquoi pas?
Oui, mais tout à fait. On en parlait un petit peu tout à l'heure, effectivement, notre diversification. Et ça rejoint aussi une des premières questions où on disait que, effectivement, on continue de soutenir le réseau des buralistes. Je veux simplement rappeler que ces aides qui ont été attribuées, aides et subventions...
Elles servent à ça?
Elles servent à la diversification. La base de ce quatrième... D'ailleurs, il s'appelle comme ça, ce quatrième contre l'avenir, il s'appelle le protocole de diversification du réseau des buralistes. C'est le but. On demande ça depuis 2003. Déjà, l'État nous avait dit en 2003, vous voyez, donc c'est pas une question de gouvernement ou d'étiquette politique. En 2003, on devait déjà commencer à nous aider à nous diversifier, nous aider dans le sens en nous donnant des nouvelles missions de service au public. Malheureusement, ces missions ne sont pas arrivées. Il a donc fallu que notre diversification, nous l'organisions un petit peu tout seul. Et les aides que l'on a, elles nous servent aussi à ça. C'est notre leitmotiv, on essaie de se diversifier. Alors pour revenir à la question de ce monsieur que je soutiens, que je comprends tout à fait, c'est très triste d'avoir plus de 200 salariés qui risquent de subir un sort malheureux. Il est bien évident que si on arrivait à trouver quelque chose d'autre, un nouveau produit, et qu'il soit mis en place à la vente à nos clients chez nous, il n'y a aucun problème. Et là-dessus, quelque part, je rejoins le professeur Martinet. Il est bien clair que pour nous, ce n'est pas le fait de vendre du tabac qui est important. Aujourd'hui, c'est effectivement, encore aujourd'hui, c'est 50% de notre chiffre d'affaires en moyenne. Le fait que l'on descende à 40, 30, puis 20, puis 10% de tabac vendu chez nous, ce n'est pas important à partir du moment où
vous avez des compensations.
On compense en vendant autre chose. Et surtout, surtout, s'il y a une réelle politique de santé publique qui fait que les consommateurs ne vont pas trouver ce produit ailleurs. Parce que c'est là qu'il faut aussi se battre. Les marchés parallèles sous toutes leurs formes. Et là-dessus, les associations anti-tabac devraient aussi nous soutenir parce que l'on fume acheté chez un buraliste ou que l'on fume italien, belge, andorran ou luxembourgeois,
c'est pareil.
C'est pareil.
Yves Martinet, sur ce point, vous pouvez peut-être trouver un terrain d'entente malgré tout.
Oui, non, mais là, nous sommes pour une évolution de la profession de buraliste. Je voulais simplement dire que actuellement en France, vous avez tous les deux jours une officine pharmaceutique qui ferme parce qu'ils ont des difficultés économiques. Il n'y a aucune aide qui est prévue pour aider les pharmaciens. Pourquoi on aide des commerçants qui vendent un produit qui tue et on n'aide pas des commerçants qui vendent des médicaments? Je pense qu'on doit réfléchir sur cette dimension.
Tout simplement, alors si je peux répondre, juste 30 secondes, tout simplement, pour il y a une seule raison, elle est très simple, c'est qu'effectivement, le pharmacien est également, c'est un professionnel, mais qui est également commerçant, et nous sommes commerçants, mais nous sommes les seuls commerçants à avoir le statut de préposé de l'administration. Pourquoi? Parce que l'État nous aide. Pourquoi? Parce que nous vendons son produit et ses produits.
Alors, un témoignage de Gilles, d'ici les Moulineaux, il dit « J'ai fumé ma dernière cigarette en 2003 grâce à Monsieur Raffarin parce qu'il avait augmenté les paquets de 10% en novembre 2003, c'est exact, Yves Martinet. »
C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a eu 1,5 million de Français qui ont arrêté de fumer.
Il voulait pratiquer une seconde augmentation en 2004, et donc oui, augmenter, dit-il, ça peut aider.
C'est efficace, c'est démontré scientifiquement.
Autre témoignage, Philippe, qui nous appelle.
Bonjour.
Bonsoir.
Bonsoir.
Vous nous appelez Destouche.
Merci, Monsieur Martinez, sur sa remarque concernant la nicotine plus dangereuse que l'héroïne. Ça fait plusieurs émissions sur le sujet que j'essaye de faire passer ce message. Toutefois, je regrette que M. Martinez n'ait pas tiré la conséquence de sa réflexion, à savoir que l'État est le premier dealer.
Monsieur Martinet, donc, va vous répondre.
Oui, non, mais vous avez parfaitement raison. C'est le premier dealer. 14 millions de toxicomanes au tabac, parce que c'est une toxicomanie. Et je confirme, c'est beaucoup plus dur d'arrêter de fumer qu'arrêter l'héroïne. Je vois dans mes consultations de sevrage tabagique des fumeurs qui ont consommé de l'héroïne, qui disent arrêter l'héroïne, c'est peanuts par rapport à arrêter le tabac. Actuellement, la meilleure preuve, en France, 2/3 des fumeurs ne souhaitent qu'une chose, arrêter de fumer, mais ils n'y arrivent pas parce que c'est une drogue puissante.
D'où la nécessité de ce qu'on disait tout à l'heure, les aider.
Il faut les aider à arrêter de fumer et il faut faire en sorte qu'on ne vende pas cette drogue aux mineurs.
Jean-Luc Renaud.
Alors, ne pas vendre le paquet de cigarettes aux mineurs, je suis tout à fait d'accord. Je peux vous assurer que l'on fait des progrès, mais alors colossaux en ce domaine, mais que je vous assure que des gamins, on les voit de moins en moins rentrer chez nous. Pourquoi? Parce qu'ils le trouvent deux fois moins cher devant les lycées, devant les collèges. Donc, ils viennent même pas chez nous. Nous, alors, un paquet à 10 euros, nous les verrons plus du tout. Là, au moins, le professeur Martinet sera tranquille. Ça sera pas chez nous qu'ils vont trouver du tabac.
Juste un mot sur l'état dealer, comme nous disait notre auditeur, Yves Martinet. Finalement, augmenter le paquet de tabac, c'est assez courageux de la part de l'État, puisqu'il touchera moins, il va gagner moins.
Non. Alors, on a fait des calculs, c'est relativement simple. Pour que l'État touche
moins. S'il en vend moins.
Non, mais
s'il s'en vend moins.
Pour que l'État touche moins et que les buralistes touchent moins, il faudrait qu'il y ait une baisse de plus de 30% du nombre de fumeurs. Donc on est vraiment dans un rêve auquel on n'ose pas adhérer, nous. Donc il n'y a aucun danger. Les revenus des buralistes augmenteront. D'ailleurs, ils augmentent régulièrement. Lisez le rapport de la Cour des comptes. C'est marqué en toutes lettres. Leurs revenus augmentent régulièrement. Et avec ces augmentations, leurs revenus augmenteront. De la même façon, les taxes augmenteront.
Alors juste une précision, 34% des 15-75 ans, des Français fument, contre 25% en Allemagne, en Espagne, en Belgique, ils sont encore moins nombreux en Grande-Bretagne, en Italie. Partout on assiste à une consommation en baisse depuis le début des années 2000, pourquoi on n'y arrive pas?
Déjà, alors regardez, pourquoi on n'y arrive pas? Alors que dans la plupart de ces pays, mis à part l'Angleterre, on est bien d'accord, mais mis à part l'Angleterre, tous ces pays sont nettement moins chers, voire vraiment nettement moins chers que chez nous, et ils ont de meilleurs résultats. Tout simplement parce que de la prévention est faite, de la véritable prévention. Ça, c'est important. Chez nous, ça ne marche pas.
Alors nous, les lois, on a de bonnes lois, mais elles ne sont pas appliquées. L'interdiction de vente aux mineurs n'est pas respectée. Les interdictions de fumer dans les lieux publics ne sont pas respectées. À Nancy, vous avez encore un bar à chicha qui s'est ouvert. Mmh. Vous avez l'autorisation de bar à chicha, alors que c'est complètement dans l'illégalité. Vous avez une certaine mentalité des Français. Il faut bien voir que si on regarde par exemple le problème des vaccinations, il y a les anti-vaccins sont extrêmement importants en France.
Ce sera notre sujet de demain soir.
Oui, et ben c'est un vrai problème et c'est les messages sanitaires ont du mal à passer en France.
Et vous parlez de bar à chicha, on voit aussi se développer la mode du tabac à rouler chez les jeunes, hein, puisque c'est moins cher.
Oui, mais justement,
ça leur permet de fumer moins aussi, peut-être ?
Non, alors on demande qu'il y ait une augmentation du tabac à rouler. Et malheureusement, il faut savoir, c'est qu'une cigarette roulée, c'est plus dangereux pour la santé qu'une cigarette manufacturée, parce qu'elle est moins dense et la température de combustion est différente.
Un mot là-dessus, Jean-Luc Renaud.
Mais écoutez, alors effectivement,
sur les nouvelles tendances, les nouvelles modes.
Les nouvelles tendances. Alors le tabac roulé, effectivement, est bien, se vend toujours très très bien. Mais malheureusement, il se vend de façon encore plus importante avec des sauts énormes, des conditionnements beaucoup plus gros que chez nous, en Belgique, au Luxembourg, hein, partout ailleurs, vous voyez le tabac roulé qui explose.
Le Luxembourg est un dealer au centre de l'Europe pour l'alcool et pour le tabac. Ça, alors moi, je suis à Nancy, je peux vous dire, je le vois.
Alors juste une question de Bernard sur Twitter. Là, il faut y répondre très rapidement. Pourquoi ne pas interdire les fumeurs, puisqu'ils ont un comportement à risque. Alors pourquoi nous, non fumeurs, devrait-on payer pour eux? Là, c'est radical, hein.
Oui, alors ça dépend. C'est simplement une question de conception de savoir qu'est-ce qu'on entend par fumeur, si on entend que c'est quelqu'un qui a une mauvaise habitude ou si c'est quelqu'un qui est dépendant. Pour nous, c'est la dépendance, l'addiction est une maladie. Et à partir de ce moment-là, nous pensons qu'ils doivent être pris en charge par la Sécurité sociale. Je rappelle, c'est la drogue la plus dure sur le marché.
Yves Martinet, pneumologue au CHU de Strasbourg et président du Comité national contre le tabagisme. Jean-Luc Renaud, secrétaire général de la Confédération des buralistes. Merci à vous.
Merci.
Merci.